bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute!
Bienvenue sur le podcast L'Investisseur Transformé. Ici Ruben Antoine et j'espère que vous passez un automne formidable. Cet été, nous avons lancé 2 épisodes sur le droit familial pour parler de tout ce qui se passe lors de la séparation de conjoints qui ne sont pas mariés. Et ici, je fais référence aux épisodes 48 et 49 qui sont sortis respectivement en juin et en juillet dernier. Donc, après leur écoute, plusieurs auditeurs nous ont exprimé avoir vraiment apprécié ces épisodes. Ils les ont trouvés très informatifs et pertinents, surtout avec l'entrée en vigueur du nouveau régime d'union parentale depuis le 30 juin dernier. Donc, nous remercions nos auditeurs pour leur feedback et commentaires sur ces épisodes. Mais nous avons aussi remarqué qu'il y avait une demande qui est revenue une couple de fois dans les feedbacks. Et cette demande, c'est de faire un épisode qui concerne cette fois les couples mariés. Donc, aujourd'hui, nous retournons dans le domaine du droit familial pour survoler tout ce qui se passe dans le cas d'une séparation ou d'un divorce d'époux mariés. Pourquoi on retourne dans le droit familial? Pourquoi on parle autant de droit familial dans un podcast financier? Ben, c'est parce que le droit familial a un lien direct avec la bonne gestion de patrimoine financier. Quand on y pense là, il y a tellement d'éléments en jeu quand on commence à penser à tout ce qui est lors d'une séparation de tout ce qui est de partage des actifs. Puis là, on peut parler d'actifs, les placements, les biens immobiliers et autres. Donc, à travers les 2 prochains épisodes, nous allons être accompagnés d'un expert invité qui est un avocat avec une vaste connaissance dans tous les aspects du droit de la famille. Son nom est Louis Dessureau et il est associé de la firme Dessureau Herbert et il va nous aider à bien comprendre ce qui se passe exactement avec les biens, la maison, les investissements, l'entreprise et les autres actifs lors d'une séparation ou un divorce. Donc, les discussions qui vont suivre peuvent être très pertinentes pour les personnes qui s'engagent dans une relation sérieuse, par exemple, mais aussi pour ceux qui sont sur le point de se marier ou encore pour les personnes qui ont des enfants, qui sont sur le point de se marier aussi et puis qui se demandent, bon, qu'est-ce qui se passe si mes enfants dans le futur, bon, y arriverait quelque chose. Et on aimerait que tous ces personnes-là, tout ce beau monde-là, les gens qui s'apprêtent à se marier ou leurs parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, ben on aimerait qu'ils connaissent leurs droits et leurs obligations par rapport au fait qu'ils s'apprêtent à officialiser leur relation avec un mariage. Mais ça peut aussi être, ces prochaines discussions-là, très pertinentes pour les personnes qui malheureusement traversent une période difficile et envisagent une séparation ou un divorce. Souvent, ces personnes-là se posent beaucoup de questions sur ce qui va arriver avec tous les biens qu'on a accumulés dans le mariage. Donc, en espérant que ces épisodes vont être utiles soit à vous ou à un membre de votre entourage, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louis, content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui.
Mais très content d'être ici avec toi.
On va parler de tout ce qui est attrait au droit familial, Louis, puis on est content d'avoir un expert sur ce sujet-là sur notre balado aujourd'hui. Avant qu'on commence dans le sujet, si tu peux, s'il te plaît, nous parler un peu de toi, nous expliquer ce que tu fais exactement. Et je sais que tu es dans le droit familial justement, donc c'est quoi un avocat en droit familial?
Donc moi, je suis avocat en litige familial successoral depuis maintenant 15 ans. En gros, je m'occupe des aspects civils des chicanes de famille, si on veut. Et ce que ça implique, en réalité, ben, c'est représentation devant les tribunaux et également accompagnement, là, tout ce qui est conseil juridique, négociation, conseil pendant les médiations, essayer de trouver des solutions. Des fois, ça peut même être de planifier un petit peu pour les conséquences juridiques, disons, d'un mariage ou sinon de conseiller pour une planification successorale. Donc, c'est vraiment ce que je fais depuis les 15 dernières années.
Tu as mentionné le mot mariage, tu as mentionné chicane de famille. Moi, ça me fait penser à tout ce qui concerne justement le divorce qu'on va aborder aujourd'hui aussi. Donc, si on commence par la base, Louis, je suis en couple, mais je me divorce. Ça va me coûter combien tout ça?
Ben, c'est la question qu'on entend pas mal souvent, on va dire. La première chose à savoir, c'est que si je me divorce et que je suis le conjoint ou la conjointe avantagée financièrement, mon ex-époux a vraiment deux genres de recours. Donc, les premiers types de recours, c'est ce qu'on appelle les recours alimentaires. Bon, il y a la pension pour enfants, c'est facile, c'est des lignes gouvernementales qui nous disent essentiellement c'est quoi le chiffre. Il y a la pension pour ex-conjoint, ex-épouse. Ça, c'est vraiment toute une série de critères dépendant, bon, de la durée du mariage, des revenus des parties, du rôle qu'on joue. Puis ensuite, il y a les recours patrimoniaux. Donc, quand on parle des recours patrimoniaux, c'est vraiment quand on parle de partage des biens, là. Donc, est-ce que mon ex va partir avec la moitié, là? La question, qu'on entend souvent. Et ça, il y a deux types essentiellement de partage de biens, là. Il y a le partage du patrimoine familial et le partage du régime matrimonial.
Justement, pour les gens qui sont pas dans le domaine comme toi, ça peut être quand même complexe, tout ce qui a trait au partage des biens. Tu as mentionné patrimoine familial puis origine matrimoniale. Sur le podcast aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du premier aspect, tous les biens qui tombent dans le patrimoine familial, et on va se revoir, Louis, dans le prochain épisode pour discuter des régimes matrimoniaux. Mais revenons au partage des biens. Donc, un couple se sépare ou divorce. Je pense que, comme tu as mentionné, le public en général, ils sont pas mal au courant qu'il y a en général une certaine séparation de biens, hein. Mais souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que les biens sont justement classés différemment, hein. Il y a différents types de biens, qu'on regarde ça d'une perspective légale, qui sont séparés différemment, ils sont catégorisés de certaines façons. Et il y a aussi des exceptions à savoir qu'est-ce qui va être divisé ou non. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, donc, comme je disais dans la dernière question, il y a le patrimoine familial et il y a le régime matrimonial. Peut-être petite note sur la dernière question, là, il existe également des recours en enrichissement justifié. Tout ça, on pense pas qu'on va rentrer là-dedans aujourd'hui. Ça prend, disons, des circonstances particulières. Mais pour ce qui est du patrimoine familial, là, dont on doit parler aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une série de biens dont la valeur accumulée pendant le mariage est automatiquement partageable au Québec. Donc, qu'on signe un contrat de mariage ou pas, certains biens font partie de ce qu'on appelle le patrimoine familial et eux vont être partagés. Et ça, c'est vraiment pour tous les gens qui, dans le fond, habitent au Québec au moment du divorce, là. Donc, qu'on se soit marié à l'étranger, peu importe, on est au Québec au moment du divorce, il y a une série de biens qui fait partie du patrimoine familial.
OK, deux choses dans ce que tu viens de me dire. Tu as dit qu'on signe un contrat de mariage ou non. Donc, on va bientôt parler de qu'est-ce qui rentre dedans là, mais on peut pas signer un contrat pour dire, hey, ce bien-là, je l'ai acheté. Si ça fait partie du patrimoine, je vais pas le partager. C'est automatique.
Effectivement, la toute petite nuance dans ce que tu viens de dire, c'est le patrimoine, c'est pour les biens accumulés pendant le mariage.
OK.
Donc, on peut dire, j'ai déjà ce bien-là, il ne sera pas partageable, puis ça, on va y revenir. Mais non, effectivement, tu as raison, on ne pourrait pas faire un contrat de mariage qui dirait, disons, bon, on va y arriver, là, mais la résidence familiale ne fera pas partie du patrimoine familial.
OK. Et la deuxième chose, c'est que tu as dit domicilié au Québec. Donc, moi, si je me suis marié à Vegas ou en Thaïlande ou quoi que ce soit, et j'ai célébré cette union-là à l'extérieur du Canada ou du Québec, si pendant ma séparation, mon divorce, je vis au Québec, même si mon mariage était ailleurs, ben là, je suis sujet à ces règles de séparation de patrimoine familial.
Exactement. Et là, tu as utilisé l'exemple de se marier en vacances, mais c'est vrai même si on habitait à l'étranger. Donc, disons, je travaillais outre-mer, j'ai rencontré ma future épouse pendant qu'on travaillait en Chine, disons, puis on est venu habiter au Québec 5 ans plus tard. Ben, si vous habitez au Québec au moment du divorce, le patrimoine s'applique quand même.
Et les immigrants aussi, là, qui ont vécu toute leur vie ailleurs, qui ont déménagé au Québec.
Ouais.
Ça, c'est intéressant, ça.
Il faut que les deux soient domiciliés au Québec, donc il faut qu'ils soient encore ensemble. On peut pas se séparer à l'étranger puis venir au Québec pour avoir le patrimoine familial. Mais oui, effectivement, ça s'applique également aux immigrants qui sont venus habiter au Québec.
Là, on va bientôt rentrer sur c'est quoi ces biens-là, parce que là, on met la base pour comprendre à qui ça s'applique et comment ça s'applique et quand ça s'applique. Mais avant de rentrer sur c'est quoi ces biens-là qui font partie du patrimoine familial, je suis quand même curieux pourquoi qu'il y a cette loi-là, que justement qu'on peut pas en sortir là avec un contrat là pour ces biens-là. Historiquement, est-ce que ça a été mis en place pour protéger certains conjoints? Parce que quand on pense traditionnellement, par exemple, les femmes, il y en a qui restent à la maison pendant que l'homme travaillait. Donc, s'il y a une séparation, elles pourraient être désavantagées lors d'une séparation, se retrouver sans bien. Donc, est-ce que c'est le principe de base et la raison principale pourquoi le patrimoine familial a été mis en place?
Oui. Oui, 100%. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même dans les années 70-80, les divorces sont devenus de plus en plus fréquents. Et comme la loi moderne sur le divorce, la première version a été adoptée en 1985. Puis le patrimoine familial a été adopté là, quelques années plus tard par le gouvernement du Québec, exactement pour la raison que tu dis, là, pour protéger le conjoint économiquement désavantagé, qui, bon, traditionnellement, était la femme à la maison avec les enfants, quoique le patrimoine familial ne fait pas de différence maintenant. Là. Donc, ça s'applique des deux côtés.
Donc, parlons-en. C'est quoi les biens? C'est quoi ces biens-là qui sont sujets à séparation, à division, qui tombent dans le patrimoine familial?
Les résidences de la famille, la maison, le chalet, les meubles, les voitures. Ça dit les véhicules, là, mais bon, typiquement, ça va être les voitures.
Oh, ça peut être les bateaux de la famille aussi.
Ça pourrait être les bateaux de la famille aussi.
Mais le skidoo aussi.
Si tu te dis par la famille, oui. Et les régimes de retraite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la majorité des Québécois, une fois qu'on a passé la maison, les meubles, le régime de retraite, c'est pour beaucoup de monde la majorité des biens.
Là. OK, puis pour clarifier régime de retraite, on inclut REER, on inclut la Régie des rentes du Québec, une pension RPA.
Ouais. C'est une bonne question par contre, parce que oui, on inclut les REER, oui, on inclut Régie des rentes, les régimes de retraite auprès des employeurs, que ce soit public ou privé. Par contre, des véhicules d'épargne comme le CELI ne fait pas partie du patrimoine familial. Donc, bonne question, là, ça doit être un régime de retraite au sens d'une loi particulière.
OK. Donc, c'est pas tous les comptes d'investissement, là. On va le voir plus tard, mais c'est ce qui est REER et tout ce qui est régime de pension, là. Je comprends.
Exactement. Donc, je comprends que des fois, si on a maxé nos REER, on a d'autres investissements qui sont quand même pour notre planification de retraite, mais ça fera pas nécessairement partie du patrimoine familial.
OK, OK. Maison, meubles, véhicules, REER et régime de retraite. Revenons à tout ce qui est, si je peux dire, maison ou immobilier dans un sens plus large. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on a un condo et puis on l'utilise que quelques mois par année? On va dire qu'il y a des gens qui ont des condos locatifs ou même en Floride, mettons, mais on l'utilise juste quelques mois par année pour la famille, mais le reste du temps, c'est loué. Est-ce que ça, c'est dans le patrimoine familial ou c'est pas dans le patrimoine familial?
Ta réponse à cette situation-là particulière, ça serait probablement dans le patrimoine familial, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une présomption pour l'inclusion des biens dans le patrimoine familial. Ça, la Cour suprême s'est prononcée là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Si on pense que ça fait peut-être partie du patrimoine familial, ça en fait probablement partie. Maintenant, où est-ce qu'il faut faire attention, par contre, sur l'exemple du condo qu'on loue, c'est que le patrimoine familial, il s'apprécie au moment du divorce. Donc, si c'était un condo dans lequel on a déjà habité, mais on a déménagé, on s'est acheté une nouvelle maison et que maintenant le condo il est loué à l'année longue pour quelqu'un d'autre et qu'on n'y va plus, ben il a déjà fait partie du patrimoine familial, mais il n'en fait plus partie.
Ah, OK. C'est au moment du divorce, ça veut dire que si on habitait dedans pendant le mariage ensemble pendant 20 ans, mais on se divorce 5 ans plus tard, puis il était loué pendant 5 ans, ça ne va pas être pris en compte qu'il était une résidence familiale pendant 20 ans?
À moins, c'est toujours après ça une question de preuve, là. Est-ce qu'on avait l'intention d'y retourner? Est-ce qu'on était parti pour rénovation? C'est une question de preuve, mais disons, si on avait le cas très clair de on a acheté une nouvelle maison, on n'a plus l'intention de jamais retourner, mais on l'a conservé, puis là, il est 100% locatif, il a changé d'usage, non, ça ne ferait pas partie du patrimoine familial.
Parce que tantôt qu'on parlait des catégories des biens qui font partie du patrimoine familial, qu'on disait résidence familiale, c'est important de dire que tout propriétaire à revenu n'est pas inclus dans le patrimoine familial, c'est ça. Donc, si la résidence familiale devient une propriétaire à revenu, je comprends que le principe de base, c'est que c'est pas inclus.
Exactement.
OK, donc là, un autre exemple, juste pour clarifier tout ça. Là, on a parlé d'un condo partiellement loué ou habité par la famille. Si on pense aux autos, par exemple, aux véhicules familiales, à la base, ça fait partie du patrimoine familial. Exemple. Moi, j'aime vraiment les autos. J'ai mon auto que j'utilise pour la famille, mais j'ai aussi une voiture de collection, là. Donc, qui est théoriquement pas utilisée pour la famille. Mais mettons que j'utilise pour aller faire l'épicerie pour la famille. Et là, je sais que je suis curieux à savoir, est-ce que ça peut être interprété devant la cour comme vu que j'ai fait l'épicerie pour la famille, ça fait partie du patrimoine familial?
Ben, la réponse est dure à donner. C'est un peu poussé comme exemple. C'est les questions que je te poserais. Disons qu'on est en consultation.
Ouais.
Est-ce que tu amenais tes enfants à l'épicerie avec toi? Combien de fois tu as fait l'épicerie avec? Est-ce que ta femme embarquait avec toi pour l'épicerie? Donc, ça va être vraiment une question de voir est-ce que le véhicule était à l'usage de la famille. Et là, avertissement, en cas de doute, ce que j'ai dit tantôt, ça fait probablement partie du patrimoine familial.
Je comprends.
Tu sais, disons, je suis dans un club de Ferrari rétro avec mon véhicule des années 60. Je suis allé tout seul avec mes amis, avec ma voiture qui fait partie d'une collection. Et ma femme m'appelle sur le chemin du retour à la maison pour aller chercher une pinte de lait. Ça va probablement pas changer la qualification du bien si a jamais rentré dedans. Mais comme je dis, par contre, si la promenade du dimanche, c'est d'aller à l'épicerie avec toute la famille, puis qu'on fait ça toutes les semaines, ben, probablement à l'usage de la famille.
OK. Donc, à la base, ça reste dans ces situations un petit peu floues-là, une question de fait et de gros bon sens, mais surtout de fait, en fait.
Surtout de fait, oui.
OK. Donc, on a quand même maintenant, Louis, une bonne idée de qu'est-ce qui fait partie du patrimoine familial divisable dans le cadre d'un divorce. Là, de quelle manière, justement, ces biens-là vont être partagés s'il y a une séparation, un divorce ou même un décès, là, parce que ça aussi, ça a les mêmes impacts. On comprend, par exemple, que si on a des liquidités dans un REER, il y a une partie qui peut être transférée dans le REER de l'autre. Ça, c'est des actifs financiers. C'est plus facilement divisable. Mais on comprend aussi que si on a une maison, une voiture, on ne peut pas le couper en deux. Donc, comment ça marche? Est-ce qu'il y a un calcul? Est-ce qu'il y a des compensations? Juste, clarifie-nous tout ça.
Donc, pour les REER, un peu pour rassurer tout le monde, il y a même un processus de roulement sans impôt, là.
Ah, ben oui, c'est pas un retrait REER, là.
Non, ça, c'est pas un retrait REER. Donc, il existe quelque chose qu'on connaît en droit de la famille, le formulaire T2220, qui, sans rentrer dans les détails, permet de transférer une partie de son REER sans impôt à son ex. Donc, ça, c'est la première des choses. Bonne question. Et en théorie, c'est une valeur monétaire. Maintenant, le tribunal a quand même un certain pouvoir là, d'attribuer des biens à un ou à l'autre. Et souvent, bon, ce qu'on voit, les époux sont copropriétaires de la maison. Donc, c'est la fameuse négociation de qui rachète qui ou sinon, est-ce qu'on vend la maison? Mais le principe, c'est que c'est une valeur. Le principe, c'est que la créance, c'est un montant d'argent qu'on essaye de fixer.
Donc, dans la pratique, il faut faire évaluer la maison, j'imagine, évaluer les biens qui ont une certaine valeur, indépendamment, là. C'est pas monsieur ou madame qui dit « Ah, moi, je pense que ça vaut 900 000, cette maison-là. »
Non, effectivement, puis c'est la valeur marchande des biens. Donc, les questions qu'on a souvent, là, la première des choses, c'est non, la maison, c'est pas à l'évaluation municipale, c'est à la valeur marchande. C'est pas non plus, par contre, au prix le plus élevé qu'un courtier immobilier vous donne, là. On les fait évaluer pour vrai. Et au niveau des meubles, parce qu'on sait, on a cette question-là également, c'était aussi à leur valeur marchande. Donc ça, des fois, les gens sont un petit peu déçus là, parce que on le sait, les meubles, ça coûte cher et la valeur de revente, c'est souvent très bas. Là. Donc, c'est pas...
Ouais, c'est le contraire de la maison qui a augmenté de valeur. Là. Les meubles et les autos, ils peuvent baisser de valeur.
Non, exactement. Là. Donc, si on est allé acheter tout ça chez Roche-Beaubois ou un autre magasin de meubles de luxe, ben, je suis désolé, c'est la valeur marketplace, c'est pas la valeur à neuf.
J'avoue que ça peut causer des déceptions, ça. Mais outre tous ces biens-là ou ces types de biens-là qu'on a mentionnés qui font partie du patrimoine familial, est-ce qu'il y a des biens qui ne font pas partie du patrimoine familial, donc qui restent, mettons, propres à chaque personne, à chaque conjoint qui l'a acheté ou qui l'a reçu dans le cas de la rupture du couple?
Comme j'ai mentionné au début, là, patrimoine familial, c'est accumulé pendant le mariage. Fait que déjà, à la base, ce qu'on avait au début du mariage. Et ensuite, ce qui est reçu en don et en héritage donne lieu à ce qu'on appelle une déduction. Donc, finalement, c'est le classique. Mes parents m'ont donné 50 000 $ pour mettre comme dépôt sur la maison. Ben, ça va me donner le droit à une certaine déduction.
Donc, de garder ce 50 000-là dans le cadre d'un mariage.
De non seulement garder ces 50 000-là, mais également, si la maison s'est appréciée, de garder le 50 000 et même la prise de valeur de ces 50 000-là.
Je comprends. Mais quand tu as dit déjà le patrimoine commence au mariage, donc on revient avec la maison. Moi, j'achète une maison, je suis célibataire. La maison vaut 600 000. Bon, on va aller plus dans le marché immobilier actuel. On va dire que la maison vaut 900 000 quand je me marie. Et là, Je suis marié avec ma conjointe et pendant les 10 années suivantes, la maison passe de 900 000 à 1,8 million, 900 000, on va dire. Donc là, le premier 900 000 dont la valeur au mariage, si on se sépare dans le futur, là, ça vaut 1,8 million, le premier 900 000 n'est pas séparable. C'est le 900 000 suivant qui va être sujet à être divisé entre nous deux. C'est bien ça?
En fait, petite nuance, puis bonne question, là. Donc, disons que l'hypothèque était payée au complet.
Oui, là, je parle sans hypothèque pour l'instant.
Donc, dans ce cas-ci, en fait, la maison complète était payée au moment du mariage. Donc, même la prise de valeur, serait pas partageable.
Ah non, OK.
Donc, peut-être petite nuance sur ce que j'ai dit tantôt. Quand je parle de valeur accumulée pendant le mariage, en gros, c'est ce qu'on paye pendant le mariage. Donc, essentiellement, l'équité qu'on rembourse, le remboursement d'hypothèque pendant le mariage... Et même, ça va encore plus loin, l'exemple que tu m'as donné. Disons que j'utilise le 1,8 million de la vente de ma maison. On n'est pas encore divorcé. Et je rachète une nouvelle maison avec ce 1,8 million-là. J'ai fait beaucoup d'argent. J'achète une maison à 5 millions de dollars, disons. Puis le 1,8 est utilisé comme dépôt sur la maison. Ben, ce 1,8-là est un remploi. Puis lui non plus sera pas partageable.
OK, mais là, j'ai une hypothèque. Donc, ouais. L'équité... Dans la nouvelle maison de 5 millions et le paiement, là, c'est là qu'il va avoir des particularités avec le patrimoine familial.
Exactement. Donc, essentiellement, c'est une partie de ce qu'on fait comme avocat, c'est qu'on essaye de retracer le patrimoine familial au début du mariage, puis de voir qu'est-ce qu'il représente en dollars d'aujourd'hui dans le patrimoine familial au moment du divorce. Donc, c'est une partie de notre job, en fait, là.
Je comprends. C'est beaucoup plus clair pour moi parce que pour revenir à la maison 900 000, mais qui augmente de notre 900 000, je comprends que le sans hypothèque, le 1,8 million est pas partageable parce que toute la croissance d'après est liée avec le fait qu'on avait une maison à 900 000. C'est lié avec ce qu'on avait avant. Mais dès qu'il y a une hypothèque dans ce cas-là, c'est là qu'il peut avoir des particularités par rapport à la séparation d'un bien.
Et oui, c'est là qu'il y a un calcul à faire et finalement qu'on essaie d'établir qu'est-ce qui est lié à l'équité au moment du mariage. Puis qu'est-ce qui est lié à l'accumulation pendant le mariage.
Et ce, même si la maison est restée au niveau notarié sur le nom d'un membre du couple, là, il peut avoir quand même séparation. Je pense que c'est ça qui est important, là.
Oui, 100%.
OK. Et similairement, si j'avais un REER avant de me marier, on va dire le REER avait une valeur de 200 000, et là, je me marie, puis on s'entend que j'ai commencé à faire d'autres contributions à mon REER. C'est une logique similaire avec la maison. Que le REER de 200 000 que j'avais avant le mariage reste pour moi et la croissance sous ce REER-là. Mais moi, après, chaque février, là, je vais mettre un autre 20 000, 15 20 000 dans mon REER. Donc, c'est quoi que vous recommandez dans ce cas-là? Est-ce que les gens devraient ouvrir deux différents REER, garder le REER d'avant et ouvrir un nouveau REER? Parce que tu as dit qu'une partie de votre travail en tant qu'avocat, c'est de retracer le taux. Donc, comment vous recommandez aux gens de gérer ça pour pouvoir mieux le retracer dans le cas d'un divorce 20 ans plus tard?
Ben certainement, ouvrir un nouveau compte est une façon de le faire, là. C'est prudent. L'autre façon, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui se marient et qui signent un contrat de mariage, puis ça, on y viendra peut-être dans le prochain épisode, mais où est-ce qu'on constate la valeur des REER au moment du mariage? Donc, où est-ce qu'on indique un bilan? Parce que effectivement, c'est le gros défi qu'on a par rapport au patrimoine familial, nous, comme avocats en litige, là. C'est de finalement démêler tout ça et de prouver ce qui est partageable, pas partageable. Les banques au Canada ont le droit de détruire les relevés après 7 ans. Donc, de ce côté-là, des fois, c'est dur de refaire la trace. Également, là, j'ai parlé tantôt un petit peu, je crois, des dons et des héritages qui sont pas partageables. Souvent, c'est difficile de dire à qui a été fait le don. Donc, ah oui, mes parents m'ont donné 50 000 $ pour la maison. Et là, bon, la réponse, non, il nous a donné 50 000 $ à nous deux. Parce que
ouais, l'autre conjoint pourrait dire ça.
Oui, parce ouais. Que ce qu'il faut comprendre, c'est que essentiellement, c'est pas parce que la loi dit pas que c'est le parent, disons, si les parents de la femme donnent 50 000 $ ça sera pas partageable, ou si les parents du mari donnent 50 000 $ ça sera pas partageable. C'est les dons reçus individuellement par les époux qui sont pas partageables. Donc, quand on parle de choses, disons, de bonnes pratiques là, pour nous aider, nous, les avocats, puis faire en sorte que nos factures sont moins élevées, si quelqu'un doit faire un don, ben que ce soit précis à qui le don est.
Et documenté?
Oui, 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 oui. Donc, okay. Donc la meilleure façon de ce côté-là, c'est s'il y a un don pour l'achat d'une maison, quand une maison se fait acheter, c'est assez simple. Il y a un contrat notarié qui va le signer. Donc, le meilleur usage de ce côté-là, c'est vraiment d'avertir le notaire et que le don soit constaté à même le contrat d'achat de la maison. Ça,
Ça va être écrit là.
va être écrit, ça va être la meilleure façon de procéder et que ça soit clair à qui le don a été fait. Pas seulement, ah oui, on a reçu un don. Donc ça, c'est les petits trucs, disons, si les gens veulent faire en sorte, bon, on se marie pas pour divorcer, mais si ça devait arriver, ben d'avoir de la documentation claire, c'est sûr que ça fait en sorte que ça leur coûte moins cher en frais d'avocat.
OK. Puis, qu'est-ce qu'il y en a des héritages? Un membre de la famille décède, on reçoit 300 000 en héritage. Puis là, on utilise l'héritage pour faire des rénos dans la maison ou pour teinter, si je peux dire un peu, l'héritage qui n'est pas partageable avec des biens partageables pour acheter une auto pour la famille. Est-ce que ça veut dire que là, on vient prendre le risque d'avoir à pas garder la valeur de cet héritage-là au divorce ou il faut le documenter quelque part? C'est quoi que vous recommandez en général par rapport à ça?
Des fois, bon, là, c'est des bons exemples où est-ce qu'il n'y aura pas de contrat notarié, là.
Exact.
Donc, l'idée à ce moment-là, c'est plus de garder ses papiers, de les imprimer, puis de comprendre que de le mettre dans son dossier à la maison, à la même place où on met ses avis de cotisation, mais de se rappeler, que c'est ça, les institutions financières, parce que souvent les divorces, c'est après 15, 20 ans de mariage, là. Donc,
Ouais.
c'est un moment où est-ce que ce type de documentation-là est plus disponible. Donc, oui, c'est une bonne pratique quand même de garder avec soi les traces de nos transactions si on veut pouvoir l'évoquer un jour.
OK, donc c'est d'avoir la preuve et pour revenir à ce que tu disais tantôt, les gens peuvent aussi écrire pendant qu'ils se marient un contrat de mariage où il y a un bilan. Donc voici ce que je détenais en me mariant, la valeur de mon REER, la valeur de ma maison, la valeur de mon auto. Ça fait partie du contrat de mariage. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, j'avais pas pensé à ça.
Oui, on le met en
Ouais.
annexe. Ça peut faire partie du contrat de mariage. On le met en annexe. Ça peut simplifier des choses. Et c'est bon d'avoir de la clarté puis de l'information, je pense. Parce que, bon, comme je dis, c'est certain, on se marie pour rester ensemble. Donc, on veut éviter de divorcer. Mais si ça devait être le cas, ben, je pense que le but de tout le monde, c'est que le litige soit le plus court possible
Ouais.
et que ça coûte le moins cher possible et d'avoir des pratiques où est-ce qu'on documente les choses, justement, permettent d'éviter des mauvaises surprises si ça devait arriver.
Parce qu'on comprend là, en sommaire, on sait qu'on parle du patrimoine familial, donc je sais que je me répète, mais la maison familiale, les auto-véhicules de la famille, les meubles et les régimes de retraite sont séparables, mais il y a des exceptions à ça, ce qu'on détenait avant et ou pendant le mariage, les dons, donc les cadeaux de la famille monétaire ou autres et les héritages. Donc, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'exceptions. Je comprends que il faut s'assurer que le tout est clair et puis il vaut mieux le faire quand tout est amical et on s'aime que quand on ne s'entend plus là de discuter de ces affaires-là et de voir comment se protéger mutuellement l'un l'autre. Est-ce que tu as d'autres points, d'autres recommandations par rapport à ça? Je sais qu'on va continuer la conversation dans le deuxième épisode, mais que tu aimerais partager avec nous avant qu'on se quitte, Louis?
Non, je pense que vraiment, tu as bien fait le tour. C'est un bon résumé. Comme je dis, quand on va parler des acquis, la clarté va devenir encore plus importante, là. Donc, parce que les choses vont se mélanger. Et peut-être ce qu'il faut savoir au niveau du patrimoine familial, c'est quand on parlait de la valeur au moment du mariage, c'est la valeur des biens du patrimoine familial. Donc, ça, on en parlera, je crois, dans le prochain épisode. Mais c'est pas parce qu'on avait 100 000 $, disons, dans un compte en banque au moment du mariage, puis qu'on achète la maison avec cet argent-là du moment du mariage, que là, ça sera pas partageable. Donc ça, va falloir faire attention. C'est vraiment les biens du patrimoine qui restent avec le patrimoine, puis les biens des régimes matrimoniaux qui restent avec les régimes matrimoniaux.
Si on pensait que c'était pas assez de détails, on va continuer la conversation dans le prochain épisode parce que là, les gens, nos auditeurs, auditrices pourraient se demander, OK, je comprends les biens que je viens de citer, c'est divisable, mais qu'est-ce qu'il y en est de mon compte de banque si j'ai des actions d'une entreprise? Mon CELI, tous les autres comptes et biens qu'on n'a pas discutés aujourd'hui. Donc, c'est là qu'il y a une deuxième catégorie, comme on disait, qui les englobe, qu'on appelle les régimes matrimoniaux. On va en parler dans le deuxième épisode. Louis, merci beaucoup pour toutes les clarifications et les détails que tu nous as donnés sur le sujet du patrimoine familial et on se revoit dans le prochain épisode pour discuter de la deuxième partie de ce qui arrive en cas de divorce concernant les autres biens.
OK, c'est moi qui te remercie.
À la prochaine.
Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre « L'investisseur transformé » et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leurs placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.